Monsieur le Président, mon chien, chère maîtresse, monsieur le détourneur infantiliste, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Cher cousin, pour commencer, que les choses soient claires, compte qu'on ne passe sur moi pour ravaler le débat au-dessous du caniveau. Nous sommes ici dans le but noble et beau de juger en notre âme et conscience le nommé Jean-Jacques Debout et personne d'autre. Parlons donc de Jean-Jacques Debout et non pas de Chantal à genoux ou de Bécassine à quatre pattes. Ce serait absolument déplacé. Ce disant, je pense d'ailleurs me faire l'avocat de l'avocate, si je puis m'exprimer ainsi, car la moralité de maîtresse Serjoint est sans tâche et je tiens à le proclamer bien haut, par-delà les divergences qui peuvent nous séparer eu égard à nos fonctions. Oui, mesdames et messieurs les jurés, sous la robe austère de l'avocate...
Oh non.
Ne se cache aucun artifice. God bless you.
L'anglais.
Mesdames et messieurs les jurés, je ferai appel à votre clémence dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, comme l'a si bien dit Henri IV le jour où il a sauté sa femme. Louise de Lorraine, si j'ai bonne mémoire. Si je requiert votre clémence, mesdames et messieurs les jurés, une clémence toute relative, j'y reviendrai, c'est que l'accusé Jean-Jacques Debout est un handicapé. Un handicapé patronymique. Qu'est-ce qu'un handicapé patronymique ? Qu'y a-t-il de plus ou de moins qu'un handicapé tronymique ? Ce n'est pas ce qui s'appelle une excellente question, mais je vous remercie quand même de me l'avoir posée. Un handicapé patronymique, comme son nom l'indique, c'est le cas de le dire, c'est quelqu'un dont le patronyme, c'est-à-dire le nom de famille, peut prêter à rire, à sourire, ou même à se fendre franchement la gueule aux dépens de celui qui le porte. Imaginez un instant, mesdames et messieurs les jurés, quel quolibet et quel lazy a pu endurer le jeune Jean-Jacques Debout lors de sa scolarité. Imaginez combien de jeunes merdeux serviles comme vous tout à l'heure ont pu ricaner méchamment chaque fois qu'un instituteur crétin disait finement Jean-Jacques Debout assis. Peut-on décemment, 30 années plus tard, en vouloir à cet homme ? Ne sont-ce point ces 30 années de moqueries infâmes qui ont transformé un enfant charmant en cette espèce de brute grossière qui nous fait face aujourd'hui ? Allons-nous réellement châtier cet épouvantable débris humain repoussant ? Cet ignoble rustre bestial sans foi, ni loi, ni cravate ? Non, mesdames et messieurs les jurés, ayons pitié de ce connard grotesque.
Oh.
C'est un handicapé patronymique. Alors qu'au départ, si j'en crois le dossier d'instruction, c'était un enfant absolument normal qui aimait le travail, la famille, la patrie par-dessus tout et la bonne par-dessous l'évier. Ce qu'il y a d'admirable chez cet être vulgaire et inintéressant, c'est que par fidélité à ses aïeux, il a eu le courage de conserver son nom d'origine jusqu'au bout. D'autres avant lui l'ont fait, qui portaient pourtant des noms tout aussi saugrenus. Je pense bien sûr à Voltaire, qui a gardé toute sa vie ce nom de fauteuil, tout à fait ridicule. À Louis XV, qui supporta son vrai nom de Louis Lacommode, avec d'autant plus de mérite qu'il épousa une princesse de mon cul. À Jacob de Lafont, le pauvre homme. Voilà Jacob de Lafont, voilà un garçon qui a souffert. Son père était arbitre de football, à Jacob de Lafont. Vous voyez, pensez bien que les supporters, ils s'en donnaient à cœur joie. Au chiotte, l'arbitre. Et Monsieur Paul, le sympathique proxénète grec. Vous croyez que ça l'amuse qu'on l'appelle Macropole à Athènes ? Sans parler de ce pauvre Jacques Merde dont Louis Rego nous parlait l'autre jour. Je vous rappelle l'histoire de Jacques Merde. Il n'était pas content de s'appeler Jacques Merde. Il est allé voir un...
À la police.
Il est allé à la police. Il a dit, j'en ai assez. Je voudrais changer de nom. Et la police lui a dit, mais vous appelez comment ? Il a dit, je m'appelle Jacques Merde. Ah oui, vous voulez vous appeler comment ? Je voudrais m'appeler Paul Merde. Il y a toujours eu des handicapés patronymiques, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire. Même Dieu, tenez, parfaitement. Au début, Jésus s'appelait Tonton. Vous vous rendez compte, Tonton de Nazareth ? Non, mais c'est vrai, quand il est allé danser aux noces de Cana, la foule a crié « Tonton Christ, au bal ! Tonton Christ, au bal !» Il y a d'autres exemples. Hugues Capet s'appelait Andy Capet, au départ. Et le vainqueur de Verdun, le glorieux maréchal Putain. Et son amant, je veux parler du colonel Jonathan, l'amant de Pétain. Si l'on en croit Pierre Dac, son biographe, son vrai nom, c'était Jonathan des renforts qui arrivent de Tananarive. C'est long, c'est dur à porter. C'est seulement à l'âge des premiers ennuis prostatiques qu'il fit d'ailleurs changer son nom en Jonathan Lucky, bordel. Plus près de nous, on cite le cas d'un autre militaire, un général, qui est né à Lille au début de ce siècle sous le nom de Charles III Cannes et qui se fit connaître plus tard sous le nom de Charles II Gaulle seulement. D'ailleurs, même de Gaulle, c'est beaucoup. Une seule suffit pour la morue. Encore plus près de nous, on ne peut s'empêcher de penser à Marie-France Gorille, à qui Brassens a suggéré un nouveau patronyme, ou à cet ancien de l'ENA qui s'appelait Valérie Petitcul, devenu Valérie j'ai le quart du train. Ou encore à Georges Dedan, qui par la suite s'est fait appeler Georges Marchais Dedan, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que ça faisait, enfin que ça sonnait, comment dire, que ça sonnait un peu caniveau, un peu merdique. Tiens, à propos de merde, vous avez vu la nouvelle photo de Chirac sur les murs de Paris? Je dis pas que Chirac c'est de la merde, mais c'est quand même lui le premier en France à avoir osé faire apposer des images scatologiques bestiales sur les murs de la capitale, donc on peut quand même parler de merde. Il est bien évident que lorsque quelqu'un d'aussi préoccupé de son image de marque que peut l'être Jacques Chirac se fait tirer le portrait par un photographe, c'est pas fait n'importe comment, ni par n'importe qui. Avant de faire la photo, on époussette Chirac, on lave Chirac, on rase Chirac, on peigne Chirac, on lui met ses plus belles lunettes, ah puis non, on lui enlève, un tout petit peu de poudre sur le nez de Chirac pour faire moins pointu, moins requin. Ça y est, on est prêt, un petit sourire, monsieur le maire, clic-clac, on la refait, clic-clac, on la refait, clic-clac, etc. Après, on choisit, avec Bobonne, Bernadette et tout l'état-major, et on choisit très, très, très soigneusement, c'est que ça peut en valoir des voix, une bonne photo. En l'occurrence, les conseillers avaient dit, il nous faut, merde quoi, une image de Jacques à la fois très souriante, très, très rassurante, n'est-ce pas, mais dans laquelle on sent passer toute la volonté, toute l'énergie de Jacques, merde quoi. Et puis, dans le regard, Coco, il faut qu'on sente l'amour que Jacques a pour le peuple. Voici d'ailleurs le détail publié dans le bulletin des amis de Jacques Chirac à propos de cette photo. La photographie géante de Jacques Chirac a nécessité 55 jours de travail, 6 tailleurs, 4 coiffeuses, 7 maquilleuses et 42 photographes de génie se sont succédés dans le bureau du maire de Paris afin de lui tirer le portrait. 3412 épreuves ont été finalement développées. Pour choisir la bonne, M. Chirac s'est entouré d'un jury exceptionnel composé de 146 personnes, chef de cabinet, beau-frère, huissier, plouc corrézien, édile de Brive, femme de chambre, belle-sœur, cadre supérieur moyen et inférieur, humble éboueur sénégalais plus particulièrement détaché à la poubelle personnelle de M. Chirac, ancien ministre UDR, vieux baron gaulliste, publiciste géniaux et même un cantonnier, celui-là même qui a pris le caniveau à Jacques quand il était petit. C'est seulement après cette somme de travail incroyable et à l'issue d'un vote houleux et extrêmement épuisant qu'a pu être sélectionné cet extraordinaire chef-d'œuvre qui terrorise les enfants et les bigotes. Parce que quand même, jamais, jamais une affiche pour un film d'horreur n'aurait osé aller si loin. C'est carrément le docteur Mabuse à l'hôtel de ville, Dracula va gerber, ou à la limite les diarrhées de Frankenstein. Ah, messieurs les candidats au présidentiel, quand on voit quelle image de vous-même vous choisissez de donner au peuple pour vous faire élire par lui, avouez que le peuple est en droit de se demander si vous ne le prenez pas pour un con. Et après ça, ne vous étonnez pas si au jour du grand choix, il y en a qui vont à la pêche ou qui voteront pour le clown.